Et notre invité politique ce matin, c'est Yann Brossard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Parti communiste. Vous êtes adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge du logement. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Patrice Moyon de Ouest-France. Bonjour,
bonjour
Patrice. On va commencer, Yann Brossard, avec ces annonces sur l'hôpital faites hier par Édouard Philippe. Un plan qui représente en tout 12 milliards d'euros sur 3 ans. Que vous reconnaissez que le gouvernement fait un effort pour l'hôpital?
Le gouvernement a été contraint de faire un certain nombre de gestes fort timides par ailleurs. On a une situation dans l'hôpital public depuis longtemps maintenant qui est devenue insupportable. Il faut discuter avec les soignants. À chaque fois que je discute avec eux, avec elles surtout, je suis frappé par le fait qu'elles ne souffrent pas seulement de conditions de travail difficiles, mais on a des soignants qui aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne peuvent plus assumer leur mission correctement. Et donc, le gouvernement a fait quelques gestes. À mes yeux, on est encore très 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 loin du compte. On parle de 300 millions en plus en 2020, alors même que le gouvernement avait prévu de prendre 1 milliard. Donc vous pouvez prendre 1 milliard, vous redonner 300 millions, ça fait quand même 700 millions en moins pour 2020 et pour l'hôpital public.
Alors Agnès Buzyn dit qu'il y a eu un sous-investissement chronique depuis 15 ans. Est-ce que la gauche n'a pas une part de responsabilité aussi dans la situation actuelle?
Mais bien sûr que si. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis une quinzaine d'années ont une responsabilité écrasante dans la situation de l'hôpital public. Et si aujourd'hui l'hôpital public va mal, c'est qu'on a fait des économies, qu'on a rationné les dépenses de santé. C'est-à-dire que les politiques d'austérité appliquées au domaine de la santé ont conduit à une situation qui est effectivement dramatique.
Est-ce que c'est aussi les 35 heures qui sont responsables d'une certaine désorganisation à l'hôpital?
La mise en place des 35 heures telle qu'elle s'est faite dans l'hôpital public a effectivement conduit à un certain nombre de difficultés que les communistes ont d'ailleurs dénoncées à l'époque. Aujourd'hui en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde voit bien que ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce gouvernement quand même...
Ça continue comme ça, ça veut dire qu'il faut revenir sur les 35 heures à l'hôpital?
Non, c'est-à-dire qu'il faut remettre massivement des moyens dans l'hôpital public, sortir de cette logique qui consiste à faire des économies sur le dos de la santé, sur le dos des patients. On a aujourd'hui besoin de remettre des moyens dans l'hôpital public.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez?
Nous proposons par exemple un moratoire sur les fermetures de lits et sur les fermetures de services. Le gouvernement a annoncé qu'on ne fermerait pas d'hôpital public, mais cette annonce est en réalité en trompe-l'œil, puisqu'on ne ferme certes pas d'hôpitaux, mais on continue à fermer des services et à fermer des lits. Depuis que Macron est président de la République, il y a eu 16 000 fermetures de lits. Est-ce qu'on continue comme ça? On ne peut évidemment pas continuer comme ça. Donc il faut remettre des moyens. Nous, c'est notre conviction, c'est le sens des propositions portées par les parlementaires communistes au Sénat comme à l'Assemblée nationale. S'il y a bien un secteur dans lequel on n'a pas le droit moral de faire des économies, c'est bien le secteur de la santé.
Mais comment on finance alors tout ça?
Mais d'abord, en arrêtant peut-être de multiplier les exonérations de cotisations sociales comme on le fait depuis des années. C'est-à-dire qu'on a un discours qui est totalement hypocrite, qui consiste à dire c'est formidable, on va réduire les cotisations sociales, y compris pour un certain nombre de grandes entreprises, sans aucune espèce de garantie de création d'emplois en échange, et on ne dit jamais que moins de cotisations sociales, ça fait moins d'argent pour les retraites, ça fait moins d'argent pour notre système de santé. Donc, si nous voulons que notre système de santé tienne, si nous voulons que notre modèle sociales tiennent, à un moment donné, il faut aussi des financements.
Est-ce que vous soutenez le plan Ma Santé 2022 qui devrait normalement permettre de mieux réorganiser le système de santé français en donnant plus de responsabilités à la médecine de ville?
Mais qu'on donne plus de responsabilités à la médecine de ville, très bien. Simplement, tout cela ne peut pas fonctionner si on ne sort pas du tabou qui a été installé sur la question des moyens. Aujourd'hui, tous nos services publics souffrent d'un manque de moyens. On le voit dans l'hôpital public, on le voit dans l'éducation nationale, on le voit dans toute une série de secteurs qui sont fondamentaux. Enfin, quand même, l'hôpital, c'est ce qui faisait la fierté de notre pays. Et aujourd'hui, c'est devenu une honte pour nous, les Français. Donc, remettons des moyens dans l'hôpital public. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Bien sûr qu'il y a des questions d'organisation. Bien sûr que la question de l'articulation avec la médecine de ville mérite d'être posée. Mais on ne s'en sortira pas si on ne remet pas des moyens dans l'hôpital.
Alors, ce plan, il est né d'une colère du personnel hospitalier. Est-ce que vous dites désormais, avec ce plan, avec ces annonces, ce mouvement doit s'arrêter?
Évidemment non. Et je serais bien le dernier à le dire. Je pense qu'on a des personnels qui sont les meilleurs juges pour savoir s'il faut continuer le mouvement ou pas. Et toutes les réactions...
Et vous les appelez à continuer à manifester?
Je les appelle à continuer à se mobiliser parce qu'on est aujourd'hui loin du compte, bien sûr. Et d'ailleurs, toutes les réactions que j'ai entendues hier, celles des médecins comme celles des soignants de manière plus générale, témoignent du fait qu'on est loin du compte.
Les manifestations qui ont aussi lieu contre la réforme des retraites. Un rapport du Conseil d'orientation des retraites est publié aujourd'hui. Un rapport qui dit que le régime devrait être en déficit en 2025 entre 8 et 17 milliards d'euros. Est-ce qu'il va falloir travailler plus longtemps pour résorber ce déficit?
Nous sommes confrontés à un défi, il faut bien le dire, qui est un défi majeur. Il y aura plus de retraités, tout le monde le sait, parce qu'il y a un allongement de la durée de vie. Tant mieux d'ailleurs, ça témoigne du fait que, malgré tout, les progrès en matière de santé portent leurs fruits. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est pas comment on va dégrader les conditions de vie des retraités, c'est comment on fait en sorte de pouvoir assumer ça et comment on fait en sorte que les retraités puissent vivre dignement dans notre pays. S'il y a plus de retraités, ça veut dire qu'il faut plus de moyens pour financer les retraites.
Donc vous les trouvez, les moyens, vous
plus
les trouvez
de moyens. Eh bien, par exemple, en mettant à cotisation les revenus financiers des entreprises. Aujourd'hui, les revenus financiers des entreprises ne sont pas mis à contribution au même titre que les revenus du travail. Et si on mettait à contribution les revenus financiers des entreprises, on pourrait récupérer 50 milliards d'euros pour financer les retraites. Et donc, je dis qu'il faut aujourd'hui élargir l'assiette des cotisations aux revenus financiers des entreprises. Après tout, ça ne serait pas absurde quand on voit à quel point ces revenus financiers sont
donc
importants.
Pour vous, pas de report de l'âge de départ à la retraite, pas de cotisations supplémentaires?
Absolument pas. Parce que, en tout cas, pas sur le travail. Absolument pas, parce que on a aujourd'hui besoin de garantir aux retraités de bonnes conditions de vie. Ça n'est pas qu'une question financière, ça n'est pas qu'une question budgétaire, c'est une question de modèle de société. Moi, je veux qu'on ait des retraités demain qui puissent s'occuper de leurs petits-enfants, qui puissent vivre correctement, qui puissent profiter de ces belles années de leur vie après toute une série d'années de travail. C'est ça qu'on doit garantir. C'est d'ailleurs comme ça que nos anciens l'ont conçu au sortir de la guerre en créant notre système par répartition. Et on a créé ce système de retraite par répartition dans une France en 1945 qui était ruinée.
Donc ça veut dire que vous soutenez finalement ce projet de système universel à point que tel qu'il est présenté aujourd'hui par Jean-Paul
Présenté, puisque aujourd'hui, ce système de retraite par points ira de pair avec soit un allongement de la durée de cotisation, soit un report de l'âge de départ à la retraite. Et aujourd'hui, on le sait très bien, c'est une réforme qui va dégrader les conditions de vie des retraités.
Alors, la CFDT, justement, dit que ça serait l'occasion d'obtenir de nouveaux droits pour des personnes qui n'en ont pas aujourd'hui.
Oui, ben regardons tout ça. Mais enfin, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que cette réforme, c'est une réforme, vous l'avez dit, des retraites par points. Il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place la retraite par points. C'est notamment le cas de la Suède. En Suède, 92% des femmes, depuis la mise en place de la retraite par points, ont vu leur pension baisser. Est-ce que c'est le modèle qu'on veut développer? Par ailleurs, on ne connaît pas aujourd'hui la valeur du point et on ne connaîtra pas la valeur du point sur une longue durée. Donc ça signifie une chose, c'est qu'avec ce système de retraite, vous saurez combien vous payez, mais vous ne saurez pas combien vous toucherez. C'est quand même un drôle de modèle qui plongera beaucoup de futurs retraités dans une incertitude qui est particulièrement inquiétante.
Alors, grande journée de mobilisation contre cette réforme annoncée le 5 décembre. Comment vous allez vous mobiliser au Parti communiste?
De deux manières. D'abord, nous serons évidemment aux côtés des syndicats qui se mobilisent le 5 décembre. Je pense qu'on se dirige vers une grande journée de mobilisation. Tous les échos que j'ai témoignent du fait qu'il y aura du monde et que le nombre de professions mobilisées va être extrêmement important.
J'ai vu qu'il y a du monde et des blocages pour vous?
Oui,
d'après les échos que vous avez.
Une grève, c'est une grève. Et donc, elle se traduira inévitablement par des blocages. Ça participe du rapport de force. Mais je suis convaincu qu'il y a aussi besoin d'avancer sur l'alternative, d'avancer sur les contre-propositions. Et donc, le Parti communiste organisera aussi avec les autres forces de gauche le 11 décembre prochain, donc dans la foulée de la journée de mobilisation du 5 décembre, un grand meeting à la Bourse du Travail de Saint-Denis où l'ensemble des forces de gauche et des forces syndicales seront présentes pour travailler à des contre-propositions unitaires.
Vous dites l'ensemble des forces de gauche, c'est qui? C'est le Parti Socialiste, c'est la France Insoumise?
De la France Insoumise au Parti Socialiste, en passant par Europe Écologie Les Verts, Génération de Benoît Hamon. Nous avons besoin de travailler ensemble.
Et donc là, c'est le retour de l'union de la gauche sur cette réforme des retraites.
Eh bien, je le souhaite ardemment. Et je souhaite que, à cette occasion, on ait une gauche qui prouve qu'elle est capable de faire autre chose que de se diviser, de se disperser façon puzzle, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années. Que la gauche retrouve des couleurs, et elle retrouvera des couleurs si elle est capable d'avancer des contre-propositions, d'être en pour et pas seulement en contre, et surtout de le faire de manière unitaire.
Et donc vous travaillez rassemblée. Tous ensemble à ces contre-propositions, ça sont absolument, des contre-propositions de l'ensemble
absolument.
De la gauche.
Absolument, et en tout cas je pense que ce sera aussi un bon service à rendre au mouvement social qui a aussi besoin de perspectives politiques pour avancer et pour se renforcer.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de blocage du pays ?
Ben évidemment qu'il y a un risque de blocage du pays, mais le gouvernement devra en assumer l'entière responsabilité, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu la cocotte minute qui explose. C'est quand même le fruit d'une méthode du gouvernement qui consiste depuis 2 ans et demi à avancer en dégradant les conditions de vie de la grande majorité des Français, et tout particulièrement des plus modestes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de colère. Colère accumulée depuis 2 ans et demi. Et Macron en est le responsable.
Cette semaine a lieu le congrès des maires. Emmanuel Macron était devant les maires mardi. Édouard Philippe, il sera cet après-midi. On attend son discours. Sur le discours d'Emmanuel Macron, c'est un discours devant les maires, mais c'était un discours plutôt régalien sur la lutte contre le communautarisme, sur la sécurité, sur unir et rassembler. Hein, c'était le maître mot de son discours. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'était long. C'était long, c'était un discours qui était long, qui était laborieux, un peu un discours en forme d'excuse, parce qu'il faut bien le dire, le président de la République a beaucoup méprisé les maires depuis 2 ans et demi. Il a redécouvert les maires au moment du mouvement des Gilets jaunes, en les appelant d'une certaine manière au secours, mais en réalité pas d'annonce, et un discours que j'ai trouvé, laborieux.
Il ne s'adressait pas aux maires finalement ?
Difficile à dire. Je pense qu'il y avait quand même une volonté de se faire excuser auprès des maires auxquels il avait posé un lapin l'année précédente, puisqu'il ne s'était pas rendu au congrès des maires, contrairement à l'ensemble des engagements qu'il avait pris. Surtout, il n'annonce rien. Et la réalité, c'est qu'il y aura encore au cours de son quinquennat 13 milliards d'euros en moins pour les collectivités locales, donc des difficultés supplémentaires, alors même que nos maires, au-delà d'ailleurs des clivages politiques, font un travail formidable auprès de nos concitoyens. Heureusement qu'ils sont là, les maires, et quand on voit que la moitié des maires ne souhaitent pas se représenter, on voit à quel point ce mandat-là est souvent un mandat très dur, un mandat d'engagement. Et donc je ne vois pas ce qui pourrait rassurer les maires à l'issue du discours du président de la République.
Est-ce que vous diriez que la taxe d'habitation était une mauvaise réforme ?
En tout cas, c'est une réforme qui est compliquée, parce que évidemment, on dit aux gens, vous ne paierez plus la taxe d'habitation. Très bien, sauf que la taxe d'habitation, elle permet de financer du service public. Donc si au bout du bout, on a des collectivités qui ne sont plus capables de financer les services publics de proximité, est-ce que véritablement les Français en sortiront gagnants ? C'est par ailleurs une réforme qui profite quand même pour l'essentiel aux ménages qui gagnent le plus. Et les plus pauvres ne sont pas concernés par cette réforme puisqu'ils ne payaient pas la taxe d'habitation. Donc c'est une réforme qui d'abord n'est pas très juste, et c'est par ailleurs une réforme qui aura des conséquences qui ne se voient pas aujourd'hui mais qui risquent de se voir demain.
Il s'est prononcé clairement contre l'interdiction des listes communautaristes dans ce discours. Est-ce que là-dessus vous dites oui, il a raison ?
Oui, il a raison. C'est une idée qui venait de la droite et dont je ne voyais pas bien le sens. Parce que comment on définit ces listes communautaristes ? Et puis par ailleurs, s'il y a des listes qui prononcent des propos antisémites ou racistes, de toute façon, les gens qui les prononcent ont vocation à être condamnés par la loi, et la loi actuelle permet de les condamner. Donc je ne vois pas bien où on voulait en venir avec cette proposition de Bruno Retailleau.
Autre sujet, les hôteliers qui ont annoncé hier un boycott. Ils décident de ne plus participer aux réunions d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Ils protestent contre le partenariat noué entre le Comité international olympique et Airbnb. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, les hôteliers ont raison. Ils ont raison parce qu'ils sont confrontés avec Airbnb à une forme de concurrence déloyale. Quand vous êtes hôtelier, vous payez vos impôts en France, vous êtes soumis à un certain nombre de normes. En général, vous faites en sorte de les respecter. Et vous voyez se développer Airbnb qui ne paye pas ses impôts en France. Enfin, il paye même pas 150 millions d'euros par an, soit l'équivalent d'un 3 étoiles à Périgueux. Et il ne respecte aucune norme. Donc évidemment, vous êtes hôtelier, vous voyez ça. Et vous voyez qu'en plus, le CIO choisit comme sponsor principal Airbnb. Je comprends que vous soyez agacé. Je le suis aussi.
Que va faire la mairie de Paris ?
La mairie de Paris, elle a d'abord attiré l'attention du CIO sur les conséquences d'un tel partenariat. La maire de Paris a écrit au président du CIO, Thomas Barr, il y a un peu plus d'une semaine, pour l'alerter sur les conséquences d'un tel partenariat. Le CIO a fait son choix, c'est un choix souverain, c'est un choix que je regrette, c'est un choix qui me paraît inopportun, mais c'est son choix. Après, le rôle de la ville de Paris, et ça c'est un rôle que j'assume en propre, c'est de lutter contre les dérives d'Airbnb. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que nous n'avons pas l'intention de fléchir, au contraire.
On va y venir, mais en tout cas, sur les Jeux Olympiques qui se déroulent quand même à Paris, la mairie de Paris ne peut rien faire sur ce partenariat noué avec le CIO.
En plus de cela, ça n'est pas un partenariat spécifique pour les JO de 2024.
C'est aussi pour ceux de Los Angeles en 2026.
C'est un partenariat qui court sur 8 ans, et donc c'est un choix du CIO, et la ville de Paris n'a d'une certaine manière pas voix au chapitre.
Alors, mardi, justement, vous représentiez la ville de Paris devant la justice européenne. C'est suite à la plainte d'un habitant du 7e arrondissement de Paris. Il avait été condamné pour ne pas avoir respecté la réglementation en vigueur d'un maximum de 120 nuitées par an. L'habitant a donc porté l'affaire devant la justice européenne. Qu'est-ce que vous attendez de cette justice européenne ?
J'attends de la justice européenne qu'elle nous laisse faire notre travail. J'attends de la justice européenne qu'elle permette aux villes, aux États, de réguler cette économie ubérisée et d'éviter qu'on ne soit demain envahi par ces locations touristiques qui se font au détriment du logement des habitants de nos villes. Je veux dire à la justice européenne tout simplement qu'après tout, les élus locaux ne sont pas les plus mal placés pour savoir ce qu'il faut faire dans nos villes. Donc moi, ce que je demande simplement, c'est qu'on nous laisse ces marges de manœuvre-là.
Et vous avez bon espoir, alors c'est une décision qui n'arrivera que l'été prochain, mais vous avez bon espoir qu'elles soient en votre faveur ?
Oui, j'ai bon espoir, parce que aujourd'hui, dans tous les pays de l'Union européenne, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité politique, on a des politiques qui visent justement à réguler ce phénomène. Personne ne dit « laissons Airbnb se développer de manière anarchique ». Tout le monde dit « remettons un peu de règles là-dedans », donc j'ai bon espoir que nous soyons entendus.
Un mot sur les municipales qui arrivent. Vous êtes, on le disait, adjoint à la maire de Paris. Vous dites la gauche sera fragilisée si elle n'est pas rassemblée. Est-ce que vous ferez alliance avec Anne Hidalgo dès le premier tour ?
Moi, je souhaite que ce rassemblement avec Anne Hidalgo puisse se faire. D'ailleurs, je le dis pour Paris, mais je pourrais le dire dans toutes les villes de France.
Alors, vous le souhaitez, vous allez le faire. Vous êtes candidat, vous décidez de vous rallier au premier tour ou pas ?
Pour qu'il y ait un rassemblement, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies. Les communistes ont mis un certain nombre de propositions sur la table pour qu'on continue à développer le logement social à Paris, pour qu'on interdise Airbnb dans les quartiers qui sont les plus impactés, pour qu'on mette en place la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans. Donc, nous avons mis des propositions sur la table.
Nous
attendons de voir le sort qui est réservé à ces propositions et en fonction de ça, nous déciderons, j'ai bon espoir, que nous puissions conclure un accord d'ici début décembre.
Les divisions de la République En Marche vous profitent ? C'est plutôt une bonne
chose. Je ne vais pas les regretter. Je ne dirais pas que nous les avons suscités, ce serait nous conférer trop de pouvoir. Mais en tout cas, je les regarde avec une certaine gourmandise, oui. Ça traduit surtout le fait que Benjamin Griveaux n'est pas quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui divise. La preuve, c'est qu'il n'est pas capable de rassembler son propre camp et qu'il ne suscite pas un enthousiasme débordant jusqu'à présent.
Alors vous avez bon espoir de faire alliance avec Anne Hidalgo dès le premier tour. Est-ce qu'il en est de même du côté de vos partenaires écologistes avec qui vous gouvernez à l'heure actuelle à la mairie de Paris ?
Il faut dire la vérité, les Verts ont toujours fait une liste distincte au premier tour depuis 2001, systématiquement. Et ça n'a pas empêché la gauche de gagner au second tour. Ce que je souhaite, c'est que le rassemblement puisse se faire au second tour et que les propos qui seront tenus pendant la campagne n'empêchent pas un rassemblement au second tour. Donc j'entends parfois mes collègues verts dire un certain nombre de choses. Je veux leur rappeler que nous dirigeons cette ville ensemble. Et dès lors que nous dirigeons cette ville ensemble, nous devons assumer notre bilan ensemble dans tous les domaines.
Et donc ça veut dire qu'il serait là aussi logique que la gauche soit rassemblée dès le premier tour avec les écologistes ou pas ?
Ça aurait été logique. Cela dit, ils ont toujours fait autrement. Ils ont toujours fait une liste au premier tour. Simplement, n'obérons pas les chances du rassemblement au second.
Allez, durant cette interview, vous le savez, on donne la parole à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent aussi vous poser des questions. Regardez ce qu'ils vous demandent. Et c'est une question qui vous est posée sur Twitter par Guy Pradel. Yann Brossat, que pensez-vous de la Convention citoyenne pour le climat et pensez-vous que les mesures proposées seront appliquées par le gouvernement ?
Il y a de bonnes propositions, notamment j'ai vu une proposition que je trouve très, très juste qui est une proposition de taxe kilométrique, c'est-à-dire que pour ce qui est des produits importés, on les taxe d'autant plus fort qu'ils viennent de loin, avec l'idée qu'au fond, il faut que nous puissions consommer davantage local. Je trouve ça très juste. Simplement, beaucoup de ces propositions sont en contradiction avec les règles actuelles de l'Union européenne. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'elles soient mises en œuvre, mais ça suppose un rapport de force avec la Commission européenne.
Et vous avez bon espoir qu'elles soient appliquées?
J'ai bon espoir que nous soyons nombreux à les soutenir. J'aimerais pouvoir être sûr que le gouvernement les soutiendra aussi. Je n'en suis pas certain.
Bon, merci beaucoup.
Enfin, en tout cas, comptez sur moi pour les soutenir.
Merci beaucoup, Yann Brossat, d'avoir été notre invité.